Fantasy Moneyball, une présentation de la Fit Foodie. La Fit Foodie, c'est une entreprise d'ici qui fait des collations santé à haute teneur en protéines, mais qui goûte vraiment le dessert. Tout est sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné et chaque ingrédient est choisi soigneusement pour offrir la satiété et combler tous vos cravings. Vous commandez en ligne et vous récupérez ça facilement dans leur point de dépôt qui se situe à Trois-Rivières, Québec, Lévis et Drummondville. Bref, si vous aimez bien manger sans sacrifier le goût, allez voir la vaste gamme de produits de la Fit Foodie au lafitfoodie.com. Fantasy Moneyball, saison 1, épisode 12. Comme à chaque semaine, Jean-François Hervé en compagnie de Jean-Philippe Marcoux. Comment ça va, JP?
Ça va bien, toi?
Ça va très, très bien. On sort d'un gros début de saison, une grosse semaine. Hier. Hier, on a présenté nos trois étoiles pour la saison à venir. Et aujourd'hui, spécial dynastie. Beaucoup de nos auditeurs qui nous l'avaient demandé, qui avaient hâte qu'on parle un petit peu plus de ce format-là qui est très populaire chez les vétérans du fantasy football, puis je dirais peut-être de plus en plus populaire au fur et à mesure que le fantasy football grossit de plus en plus. C'est ça qui arrive avec une addiction. Hein. Souvent, ça s'empire avec les années. Fait que là, ben, le format annuel ne suffit plus. Il faut être là-dedans 12 mois par année. On part un dynastie. Let's go. Tout le monde est content, sauf peut-être quelques blondes ici et là. mais bref, très hâte de plonger là-dedans, JP. Ça va être super intéressant. Puis ben, c'est le fun de parler d'un format différent que le format annuel qui est super le fun. Mais le format dynastie, c'est quelque chose en soi. Évidemment, on vous rappelle que nous avons lancé notre Patreon il y a maintenant 2 semaines, je crois. www.patreon.com/fantasymoneyball. Un Patreon qui, de plus en plus, vous allez y retrouver du contenu exclusif. Vous allez peut-être aussi cette année y retrouver du contenu exclusif pour Dynasty, du contenu exclusif pour certains autres formats. On a déjà mis nos rankings au propre. Là, vous avez une espèce de draft guide que vous y retrouvez sur le Patreon. On a déjà un épisode exclusif où est-ce qu'on répond à certaines questions. Bref, et de plus en plus, là, vous allez retrouver toutes sortes de contenus exclusifs là-dessus. C'est très, très peu cher. C'est quelque chose comme 4,50 par mois là, pour les Early Birds. Donc, il y a 50 places au premier arrivé, premier servi qui paye moins cher. Sinon, bien, si les 50 places sont remplies quand vous avez décidé d'embarquer dans l'aventure Fantasy Moneyball, ça vous coûte seulement 6,50 par mois. Donc, on a mis ça très, très peu cher. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais vous n'avez pas idée à quel point que c'est important pour nous puis qu'on est très, très fiers puis très, je dirais, humble face à déjà cette communauté qui grandit de jour en jour.
Oui, puis on est agréablement surpris de l'achalandage vers notre Patreon. C'est vraiment cool parce que ça nous donne envie de mettre le plus de matériel possible pour vous. Puis je vous dirais aussi, on reçoit beaucoup de questions sur mille et une plateformes et à mille et un endroits. Dans un monde idéal, dans le futur, j'aimerais vraiment ça que les questions arrivent sur Patreon. Donc, que ce soit un commentaire sous un post ou que ce soit un message à notre Patreon, je trouve ça génial parce que ça fait en sorte que toutes les questions sont au même endroit. Donc, si vous n'avez pas de compte, pas obligé de tout de suite vous en créer un payant. Créez-en un gratuit, c'est possible. Ça se fait vraiment facilement. Il est prêt après ça pour être payant. Génial. Mais créez-vous un compte gratuit. Vous pouvez écouter tous nos épisodes là-dessus et poser vos questions parce que souvent, moi, ça m'arrive avec d'autres podcasts que j'écoute, dont à l'époque Processus.
Ouais.
90% du temps que j'avais une question pour eux, c'était au moment que j'écoutais le podcast. Fait que quand j'arrête le podcast, la question disparaît de ma tête. Je n'ai pas le temps de la poser. Mais si je l'écoute directement sur Patreon, j'écris ma question pendant l'épisode et c'est fait. Et j'oublie ça. Puis finalement, on répond à ma question puis je suis bien content.
Très bon point, JP. Puis sachez que le Patreon est public. Donc, il y a plusieurs publications, qui vont uniquement être visibles à nos abonnés. Mais il y a beaucoup de publications qui sont 100% publiques. Donc, vous n'avez même pas besoin de payer. Vous pouvez commenter, poser des questions, etc. Puis ben, c'est sûr que plus les questions sont centralisées, plus c'est facile de suivre le rythme avec tout ça. C'est un très, très bon point, JP. Donc, là-dessus, une petite mise en contexte avant de parler là, un peu. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, d'abord, on va répondre à certaines questions. On a eu, je pense qu'on a 2 questions spécifiques aux dynasties. Puis ben, surtout, on va vous parler, on va vous présenter les targets, les joueurs qu'on veut absolument, les jeunes joueurs qu'on veut absolument aller chercher, qui sont des targets là, que vous devriez essayer d'ajouter à vos alignements, et également des vétérans là, qui commencent à être temps de vendre aux plus offrants, qui commencent à être temps de, qui ont encore peut-être une valeur et qui commencent à presser, si vous voulez capitaliser là-dessus, de les vendre. Donc, c'est qui les joueurs à sortir de vos alignements? C'est qui les joueurs à avoir absolument dans vos équipes? C'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Vous allez voir, on va quand même parler rapidement de certains joueurs, de la majorité des joueurs, parce que d'abord, c'est des joueurs qu'on a parlé beaucoup déjà depuis le début de la saison. Et vous allez le voir aussi, dans plusieurs cas, il y a quand même une grande similitude entre les joueurs qu'on aime en annuel et les joueurs qu'on aime en dynastie. Ça donne comme ça cette année. Je pense qu'on referait l'exercice l'an prochain, puis ce serait peut-être totalement différent. C'est un concours de circonstances. Au moins, en tout cas, vous pouvez voir, on est conséquent face aux joueurs qu'on aime. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on ne s'éternisera pas, là, on ne se lancera pas dans des grandes envolées lyriques, des grandes analyses sur chacun des joueurs, considérant qu'il y a déjà beaucoup d'informations disponibles autour de ces gars-là. JP, j'oublie-tu quelque chose avant qu'on y aille? Je sais que toi aussi, tu avais quand même certaines, je dirais, pas avertissements, mais certaines précisions à amener par rapport à ton classement.
Oui, mais non, tout a été clair et tout a été dit de ta part. Moi, qu'est-ce que je voulais ajouter, c'est, contrairement à certains podcasts de fantasy football, surtout en anglais, on ne parlera pas des cas ultra évidents. Donc, notre but, c'est pas de vous dire de trader Derrick Henry de votre équipe pour aller chercher Ashton Jeanty. Ça va de soi, c'est d'une évidence extrême. Vous n'avez pas besoin d'un podcast pour vous dire ça. Et anyway, vous allez voir rapidement qu'au maximum, vous allez avoir un choix de deuxième round pour Henry. Donc, je trouve que ça ne sert à rien. Ça serait de faire perdre votre temps de parler de ça pendant une heure. Ça fait que c'est la première chose que je voulais dire. Et aussi, en fait, plusieurs choses à dire. L'autre chose, pour les rookies, j'aimerais vraiment ça vous dire, aller chercher tous les rookies possibles 2025 parce que c'est une QV extrêmement spéciale selon moi. La plus profonde au niveau des running backs, au niveau des tight ends et au niveau des wide receivers. Quand je dis profond, c'est qu'il y en a plusieurs de bons à très bons. Même si je vois très peu de joueurs élites à ces positions-là, mais je vous l'avais dit dans, on vous l'avait dit dans les premiers épisodes, un gars comme Mason Taylor, le tight end des Jets de New York, possiblement qui sortirait vraiment plus haut dans le draft de la NFL dans une autre année et en dynastie sortirait vraiment plus haut. Donc, il y a beaucoup de gars qui vont glisser en dynastie en raison de la quantité de joueurs aux mêmes positions dans le même repêchage. Je voulais le dire parce qu'on va parler de certaines rookies qui sortent du lot selon nous. Puis ça serait vraiment intéressant d'acquérir avant le début de la saison ou même pendant le début de saison parce que ces gars-là risquent de peut-être décevoir. Mais c'est ça, fait que pour les vétérans, c'est assez. Tu as quelque chose à dire, Jeff?
Non, c'est ça fait super du sens, JP, honnêtement. Je vois pas. Bon. J'avais quelque chose à dire, puis je l'ai complètement oublié.
Pas de souci.
J'étais subjugué par ton envolée.
Ouais, je vais y aller avec mon dernier point. Quand c'est. Veux-tu y aller, JP?
Non, mais écoute, j'allais simplement dire que. Tu sais, par rapport au show repêchage, je ne sais pas si c'était là que tu allais faire ton point, JP. Bon, vas-y, puis je rajouterai après quelque chose que j'ai en tête autour de
toi. Oui, quand c'est temps de faire des échanges en dynastie, c'est vraiment compliqué. C'est des benches de 20 à 30 personnes. C'est difficile de trouver un partenaire de danse. Tout le monde évalue leur club de façon différente. Puis les clubs vont dans des directions différentes aussi. Donc, un petit truc que je donne, c'est toujours plus facile. D'exemple, si vous avez un vétéran qu'on va parler plus tard qui est un must à trader de votre équipe, toujours plus facile de viser des choix repêchage que des joueurs précis. Pourquoi? Mais le choix repêchage, c'est un petit peu comme notre analogie des tasses à café qu'on a faite dans un des derniers épisodes. Le joueur ne le possède pas encore. Donc, il n'y a aucun attachement du pooler face à ce choix de repêchage-là versus d'essayer d'aller chercher son Ricky Purcell, que c'est lui qui est allé chercher il y a un an ou deux. Il y a un attachement déjà. Puis un wishful thinking par rapport à tous les jeunes qu'on a dans nos équipes, mais on ne l'a pas encore sur des choix repêchage qui sont anonymes. Donc, pour moi, c'est un petit truc. Puis aussi, le monde oublie rapidement la grande valeur des choix repêchage parce que oui, ils sont anonymes, mais tous les joueurs élites et même générationnels qui ont été draftés dans vos dynasties ont été des choix repêchage.
Très bon point, ça, JP. Tu devrais le mentionner à certains mononcles. Puis moi, ce que je voulais rajouter par rapport au choix repêchage, justement, c'est que plus on est loin du repêchage, plus leur valeur est basse. Plus on est proche du repêchage, plus leur valeur est élevée. Là, vous allez voir, quand on s'approche du rookie draft, du repêchage de la NFL, tout d'un coup, là, la valeur explose. Le lendemain du repêchage, on se recalme. Donc, par exemple, vous aimez particulièrement la classe 2027 du repêchage, hein, comme certains. c'est vraiment pas fou de commencer à target. Au lieu de target des jeunes dans vos échanges, de target des choix pour ce repêchage-là 2027, par exemple. Puis je dis ça, je pense que c'est déjà connu de la majorité des amateurs que ça s'annonce comme étant une classe très, 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 très forte, avec beaucoup, beaucoup de talent, différentes positions offensives. Mais bref, le point étant, le choix repêchage, c'est un actif intangible. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas Ricky Purcell, justement. Il n'a pas attrapé un ballon, il n'a rien fait. Mais quand on s'approche du repêchage, là, tout d'un coup, tu te mets à penser, ah ben tel choix pourrait devenir tel joueur. Là, c'est encore trop tôt. Fait que, en tout cas, un petit truc comme ça que je voulais lancer à nos auditeurs.
Puis surtout aussi, ton point est vraiment bon, que plus on est loin de notre repêchage, de notre rookie draft, moins que les choix valent cher. Mais je te dirais, tu sais, j'y pensais pendant que tu disais, premièrement, c'est excessivement vrai. J'ai rien à dire contre ça. Mais c'est que, exemple, que votre rookie draft est début juin, fait que le draft de la NFL a été fait. Donc là, les listes commencent à sortir, les gens regardent sur Internet, puis là, ils calculent, OK, j'ai le 8e choix, puis j'ai le 12, puis j'ai le 14. Hey, ça me donne tel ou tel gars. Fait que c'est déjà plus tangible que deux ans à l'avance. Donc, honnêtement, tu pourrais me demander, JF, en 2027, je pense qu'il va être 8e dans le rookie draft. J'en ai aucune idée. Je connais même pas les gars. OK? Fait que, tu sais, on est tellement loin, fait que c'est difficile de mettre une valeur à ça. Fait que c'est vraiment une bonne idée de viser le plus loin possible. Mais en même temps, une petite gymnastique mentale, mais un choix au repêchage plus rapide. Fait qu'en 2026, même si la QV risque d'être moins bonne que 2027, vaut pareil plus cher. Plus que c'est proche de nous, plus qu'au final, on améliore notre équipe et notre rendement d'équipe. Fait que oui, c'est bien de viser loin, mais il ne faut pas exagérer.
Très bon point. OK, fait qu'on se lance, JP, avec ta liste. On va commencer ta liste de recrues. À la position de corps arrière, je vois qu'il n'y a aucun nom. Donc, un Cam Ward, par exemple, c'est pas un target pour toi. Il n'y a pas assez d'upside ou...
Non, parce que là, on a une liste de... on parle pas de Superflex ni de Ligue à 2 QB. On parle un classique dynastique. On a juste un QB dans l'alignement. Donc, si on parle de Cam Ward, il faudrait parler de Bryce Young, il faudrait parler de Geno Smith. Fait qu'on n'est pas là. C'est pas un game changer, pas en tout au niveau fantasy. Le gars ne court pas. Fait que dans le meilleur des cas, on a un Derek Carr de ce monde ou un Eli Manning. Fait que c'est pas ça qui va vous faire gagner un fantasy.
Excellent. Au niveau des tight ends, trois noms que je vois ici.
Ouais, trois sur 5-6 que j'aimais beaucoup. Ben, sur 6 en fait, que j'aimais beaucoup. Fait que les trois principales. Tyler Warren, Colston Loveland, Elijah Arroyo de Seattle. Peut-être que des gens le connaissent un peu moins.
C'est lui que j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus. Les deux autres, je pense que rendu là, Tyler Warren, Colston Loveland, là, c'est les deux tops de leur classe. Mais Elijah Arroyo, il y en a beaucoup qui aiment mieux Mason Taylor.
Ouais.
C'est pas, tu sais, toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu as parlé, tu as fait des comparaisons avec Aaron Hernandez autour de lui. Pour cette année, vois-tu un rôle ou c'est vraiment un gars, on aime le talent, on aime l'upside? Mais c'est vraiment plus pour les prochaines années, Elijah Arroyo.
C'est vraiment pour les prochaines années. C'est la position la plus, avec corps arrière, bien sûr, la plus tardive en termes de développement. C'est excessivement difficile de tout de suite starter dans la NFL comme tight end. C'est chapeau à Laporta et Bowers. C'est pour ça que faut pas faire un coup avec ces deux gars-là. C'est deux gars sur à peu près 20-30 ans que c'est arrivé. Donc, faut pas être déçu qu'un Loveland, même un Warren, n'explose pas autant que ces gars-là. On souhaite, bien sûr. Mais Arroyo, même en ce moment, il se bat pour être starter avec AJ Barner, qui est plus un tight end classique sur le côté de la ligne. Arroyo, et on va amener ce terme-là de plus en plus, là, est un vrai F-type tight end. F pour slot, fait que c'est un tight end qui bouge, qui est placé à l'extérieur de la ligne offensive, à l'extérieur des cinq joueurs de ligne. Donc, on pense à des Cal Pitts de ce monde, des Evan Engram. Moi, je pense qu'Evan Engram, c'est la meilleure comparaison pour lui. Mais dans son jeu, on est plus dans un trapu musclé, athlétique à la Aaron Hernandez. Vraiment, c'est...
L'agressivité hors du terrain en moins.
Ouais, on souhaite.
On lui souhaite,
Beaucoup, beaucoup de talent. Je ne dis pas que c'est un coup sûr, mais encore là, on aime lancer des dards. Si ce gars-là, il hit, il va vraiment hit. Versus, c'est là la différence pour moi avec un Terrence Ferguson ou Mason Taylor. Je vois pas des athlètes aussi stud que Arroyo.
Tu vois plus des tight ends classiques du côté de ces gars-là.
Oui, vraiment, puis c'est vraiment correct. Mais tu sais, Pat Freiermuth a eu une carrière vraiment exceptionnelle.
Est-ce que c'est un gars qui te faisait gagner en fantasy?
Non, puis tu sais, c'est un peu ironique, mais un Elijah Arroyo, pour moi, c'est plus comme un Noah Fent. Puis si je ne m'abuse, Fent et Hockenson jouaient à la même place au même moment. Mais Noah Fent, si ce gars-là, il avait hit, il aurait vraiment payé en fantasy. Finalement, ça a été un semi-F-type, semi-tight-end de ligne ordinaire. Ben, pas ordinaire. Il était bon. Il a une bonne carrière.
Je pense
il est
pas
encore
que personne
là.
Est excité.
Non.
Quand...
non, mais comme il y a un potentiel de plus pour un gars comme ça, c'est pour ça que je voulais le mentionner.
Très, très intéressant. Super. Maintenant, porteur de ballon JP. Je vois 5 noms sur ta liste.
Oui. C'est des noms qu'on a mentionnés vraiment souvent. Il y en a un peut-être un peu moins.
Ouais.
Caleb Johnson, ça va de soi. Jacory Kroski-Merritt, le quatrième porteur de ballon des Commanders.
Exact.
Bechold Tooten, l'amour de GF. Ouais. Ollie Gordon, le mien. Et celui qu'on a moins mentionné, puis qu'on aurait...
Ouais.
Je ne dis pas qu'on aurait plus dû parce qu'on parle d'annuel tout le temps, mais en dynastique, il faut vraiment garder un œil dessus, c'est Dylan Sampson.
Je pense que le fait d'avoir... C'est Judkins, Quinchin Judkins aussi dans ce même backfield-là fait qu'on pense moins à lui. On le voit peut-être plus comme une solution temporaire, mais toi, tu penses qu'il y a un attrait, il y a une chance que ce gars-là ait une carrière dans la NFL là, quand même sur le long terme.
Oui, pour deux raisons. De un, le talent, il est là. C'est le joueur de l'année dans la SEC l'an passé, de loin la meilleure conférence dans la NCAA au football. C'est tout un talent, je le trouve vraiment bon. C'est... Pour moi, il est entre un backup de luxe et un starter NFL. Je n'étais pas certain de le mettre sur mon board pour un starter comme Judkins ou un Trevion Anderson et surtout pas comme un Genty. Mais vraiment comme la petite coche, j'aime mieux un gars de même que RG Harvey. Pour moi, si j'étais un club de NFL, sans hésitation, j'aurais pris Samson avant. Mais pour moi, il n'y a aucun... c'est pas bold pantoute parce que je suis certain que je ne suis pas le seul... analyste maison qui pensait comme ça.
RG Harvey, tu parles d'un gars qui sort quoi en sixième ronde dans les drafts là, quand même. Là.
Ouais, mais tu sais, au niveau du capital NFL, on n'est pas à des années-lumière les deux, mais pour certaines personnes pensent que oui. Mais en tout cas...
Je pense justement à cause du fait qu'il y en a un qui est comme arguably sur le bord de... Il y a des chances d'être le starter pour son équipe versus, ben je dis ça, puis Dylan Sampson va probablement être le starter la première semaine, mais c'est un backfield qui est pas mal plus... disons qu'il y a plus de monde à messe dans ce backfield-là. C'est moins clair que RG Harvey.
Oui, puis comme je te disais, le talent, il est là. Puis le contexte est meilleur qu'on pense parce que Jerome Ford, c'est pas... non, c'est pas Ladenian Tomlinson. Puis si Judkins est un enfant d'école et c'est un Lane Hudson qui va au terrain chaque jour, puis c'est la seule chose
qu'il fait.
C'est
sa mère qui fait à souper.
Oui, je te dirais qu'on n'aurait pas cette conversation-là, mais je pense, bien honnêtement, qu'on n'aurait pas repêché Sampson si on était les Browns. Donc,
voilà, qui fait que c'est une espèce de police d'assurance, tu as l'impression.
Mais je pense que oui, puis en dynastie, écoute, notre bench est tellement gros que d'avoir un gars comme ça, ça se peut que ça prenne 2 ans avant de le starter parce que ça risque d'être vraiment incertain qui start, c'est quoi les touches entre Ford et Sampson, puis comme on a déjà dit, est-ce que tu veux vraiment une partie de la tarte du running game des Browns de Cleveland? Pas certain.
C'est ça la grosse question. Ouais.
Donc, moi, je trouve que c'est un game ball qui coûte vraiment pas cher. Puis dans toute la liste qu'on nomme aujourd'hui, je te dirais que c'est dans ceux qui coûtent le moins cher d'acquérir. Mm-hmm. Puis je sais pas c'est quoi le prix. T'sais, si vous avez ça pour un troisième round, let's go, s'il vous plaît. Deuxième round, j'irai pas jusqu'à un début de deuxième, mais si vous savez que vous êtes un bon club puis que votre... T'sais, en tout cas, comment je pose ça, Jeff? Si vous savez... que ça vous coûtera pas un top deuxième ronde, c'est un gars que je targeterais pour un milieu fin de deuxième ronde sans hésitation.
Okay, très cool. OK. C'est ce qui fait le tour des porteurs de ballon à aller chercher là, en dynastie. On termine ça avec les receveurs de passe. 6 noms sur ta liste. Encore là, je pense pas que personne va être surpris par ces noms-là.
Ouais, puis il y en a certains que j'aime plus que d'autres. Le premier est-ce que c'est le dernier? Ouais.
Ouais, premier et le dernier.
Ouais. Trey Harris, là, s'il vous plaît, allez le chercher. J'ai rien à dire d'autre, là. OK. Bon, Luther Burden, même principe. Il coûte pas assez cher en ce moment. Je paierais vraiment cher pour ce gars-là, mais vraiment cher. Un petit peu moins que Trey Harris, mais comme je pense qu'il est sous-estimé. Puis le fait qu'il soit réellement troisième receveur de passe en ce moment sur le depth chart aide énormément pour son capital. Cal Williams, on en a parlé longtemps, je l'aime beaucoup, potentiel d'être le receveur numéro 1 à New England. Pat Bryant, idem aux Broncos l'an prochain ou dans 2 ans. Isaac Tesla, il y a tellement de hype sur ce gars-là.
Il y a du monde qui s'excite vraiment énormément, surtout depuis l'échange de Tim Patrick. Là.
Ouais, donc là, je vous dirais, ça dépend du prix, mais écoute, ça me fait rire. Il échange Tim Patrick, un rôle relativement anonyme dans l'offensive des Lions.
Absolument rien en fantasy. On s'en fout complètement de Tim Patrick.
Ouais, en tout cas.
Si Tesla se ramasse, OK, il a battu Tim Patrick. Il va avoir le rôle de Tim Patrick. OK, fait qu'il vaut absolument rien en fantasy. En tout cas, cette année, là, il n'y a rien pour s'exciter.
100%. Puis, fait que ça dépend du prix. Puis l'autre, c'est ma plus grosse excitation, je pense, avant le début de la saison, c'est Torrey Horton. Écoute, allez le chercher. J'ai rien à dire d'autre. Il est vraiment écœurant, ce gars-là. On en a tellement parlé.
Un choix de cinquième ronde qui, là, s'est taillé un poste dans la ligne partant des Seahawks de Seattle. C'est vraiment pas anodin, là.
Non.
C'est pas quelque chose qui arrive à chaque année, là. Vraiment pas. Fait que, écoute, on va voir ce que ça va donner, mais déjà, moi, je dirais ça, un bon call de GP là-dessus. Torrey Horton, un gars qui adorait, sorti quand même long au repêchage. Moi, je me rappelle de son commentaire qui disait « Je comprends pas comment un gars comme ça peut sortir aussi loin que ça en cinquième ronde. » Ben, visiblement, pour faire l'équipe déjà, il y a quelque chose de spécial de ce côté-là. OK. On a fait la liste des targets, des joueurs que vous devriez essayer d'aller chercher pour vos clubs. On s'en va maintenant vers la liste des joueurs que vous devriez essayer de vous débarrasser. Et il y a un nom à la position de carrière JP. Encore là, un nom, je pense, qui ne va pas surprendre personne.
Non, mais avant ça, je vais faire un gros avertissement. Cette liste-là, c'est des gars qui ont énormément, mais énormément de valeur. Donc, on ne va pas parler de Ramondre Stevenson. T'sais, vous comprenez, ça ne vaut pas grand-chose. Personne ne le veut. La seule personne qui a un petit peu d'intérêt, c'est la personne qui l'a dans son alignement. Les 11 autres dans votre ligue en veulent pas. Fait que j'ai fait une liste. Il y a une personne qui est un petit peu âgée. C'est juste que je trouve qu'il est vraiment haut à sa position en dynastie. Donc, je l'ai mis. Mais le restant, c'est tous des gars qui sont dans la fleur de l'âge. Et une théorie que j'ai entendue souvent dans les podcasts, et celle-là, elle est bonne. Je ne vais pas être négatif par rapport à d'autres analystes, mais mieux vaut échanger un de ces joueurs un an trop tôt qu'un an trop tard. Donc, il y a plusieurs joueurs dans cette liste-là, dont un receveur de passe que dès l'an prochain, d'après moi, il est trop tard, puis on n'aura pas même la moitié de la valeur qu'on pourrait avoir en ce moment. Donc, c'est temps de capitaliser. Puis au final, quand vous échangez votre joueur, c'est pas juste de le mettre dans les waivers. Vous avez des actifs en retour. Donc, c'est juste de bien manœuvrer là-dedans, mais de capitaliser avant qu'il soit trop tard et de faire attention. Tu sais, je pense à un de mes amis précisément qui a vendu trop tôt des jeunes porteurs de ballon parce qu'il est anti-porteur de ballon, mais en même temps, d'avoir un Derrick Henry et d'être dans un club de reconstruction, ça sert absolument à rien. Puis en ce moment, il peut à peine, ce gars-là, avoir un début de deuxième round pour. Donc, il ne faut pas trop attendre. Puis je sais que c'est difficile de trader il y a 2 ans un Derrick Henry pour un Tony Pollard, mais parfois il faut faire des moves comme ça. Puis c'est vraiment tough. Puis si on fait un mauvais échange, on le garde vraiment longtemps, malheureusement, cet échange-là en dynastie. Mais j'aime mieux qu'on bouge que ne pas bouger. Puis bien sûr, ça dépend du contexte de votre équipe. Si vous êtes un
club... C'est ça. Si tu aspires au championnat, va-t'en pas échanger Derrick Henry, là.
Exact. Fait que, tu sais, la liste qu'on mentionne là, c'est peut-être pas pour vous. Moi, je parle plus pour les gens en reconstruction.
Ben, c'est ça. Tu as un club, tu es en milieu de peloton, tu es un peu dans le bas du classement, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Peut-être c'est rendu le temps de commencer à penser à
même
à
là, GF, tu sais, être un club aspirant, j'aimerais mieux, moi, sous-payer pour un James Conner qui vaut quasiment rien en dynastie que d'aller chercher notre premier running back qu'on va parler tantôt à haut prix. Fait que, tu sais,
bon point, ouais.
Toutes les stratégies sont bonnes, mais je pense qu'il y a tellement de valeur dans les bons vétérans et non les studs vétérans. C'est un petit truc dynastie 101.
Excellent. OK. Fait qu'on se lance, JP, avec ton premier corps arrière. Ben, en fait, le corps arrière, selon toi, qui doit être échangé.
Jalen Hurts.
Jalen Hurts encore, pauvre Jalen.
Ouais, mais il est listé 5e en dynastie, puis il y a tellement de corps arrière que j'aime vraiment plus que lui pour le court, moyen et surtout long terme dans la NFL. Je pense que son contexte est monstrueusement plus important dans ses performances que son propre talent. Il est super bon, le Jalen Hurts, j'ai rien contre lui. Mais j'ai l'impression que son contexte ne sera pas toujours aussi favorable. Et c'est temps de capitaliser. Il vaut vraiment beaucoup encore. Donc, moi, j'aimerais vraiment mieux des Drake May de ce monde. À la limite, JJ McCarthy, qu'on parle souvent, GF puis moi, plus, là, on s'entend qu'on veut beaucoup plus si on va chercher JJ McCarthy en donnant Hurts. Mais comme si vous pouvez décapiter votre adversaire de ses premières rondes contre votre Jalen Hurts, moi, je le ferais anytime, sans hésitation.
Excellent. Au niveau des tight ends, deux noms, JP.
Ah, puis deux gars que j'aime vraiment beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Un, j'aurais jamais pensé le mettre là parce que je vous disais qu'on ne va pas parler des évidences de trader son Tyreek Hill et Derrick Henry. Mais le quatrième tight end encore en ADP, en dynastie, c'est George Kittle. Rien à dire, il y a 32 ans en octobre, c'est le temps de capitaliser, s'il vous plaît, parce que demain matin, quelqu'un vous offre Colston Loveland contre votre Kittle et votre choix de deuxième ronde. Je cours vers mon téléphone pour accepter ça. Là. Pour vrai, il est trop tard, à moins que vous soyez un aspirant.
Et TJ Hockenson, ouais. As-tu quelque chose à rajouter de ce côté-là, JP?
Ben, il apparaît 28 ans, il est 7e tight end, puis je pense pas qu'il y ait un ceiling exceptionnel dans le futur. Je l'aime pour cette année, peut-être même l'an prochain, mais quand je disais qu'on aime mieux trader un an trop tôt que trop tard, c'en est un.
Ouais, puis c'est le genre de gars, tu sais, des fois, les jeunes carrières, on va souvent avoir tendance à se tourner vers le tight end quand ça va moins bien, etc. Mettons qu'il y a un gros, gros, gros début de saison cette année.
Et puis, il va en avoir un. Il y a trois matchs sans Jordan Addison.
Voilà, ça, c'est un gars que moi, je considérais sérieusement échanger en dynastie. À moins, évidemment, c'est mon premier tight end qui me bat
semaine
pour
4.
Le championnat.
Let's go.
On a même un timeline pour vous. Là. Sérieusement, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous donne pas des conseils détaillés. Maintenant, au niveau des porteurs de ballon, 5 noms, JP,
ouais,
que tu veux offloader.
Oui, et je dirais, les deux premiers que je mentionne, c'est les deux gars que j'aimerais le plus échanger de mon équipe si je les avais en dynastie, parce que leur valeur ne sera jamais aussi haute que là, mais jamais. Donc, c'est le temps d'aller chercher des belles rookies comme Jenty, Judkins, Anderson et même Hampton pour ces gars-là, plus, là, parce que souvent, vous pouvez avoir plus en retour. Le premier, ça va faire mal, mais c'est un running back que ça fait à peu près 15 ans qu'il est dans la ligue, même s'il n'a que 28 ans. C'est le troisième en ce moment classé en dynastie. Dans un starter draft, là, c'est le troisième porteur de ballon qui passe sur le board. Je trouve ça extrême, même si on pourrait débattre, c'est possiblement le meilleur running back dans NFL. C'est probablement le premier pick à faire en annuel. Je parle bien de Saquon Barkley. Fait que tout a été dit. Moi, je pense qu'il va l'an prochain, il va valoir moins. L'année d'après, encore moins. Et l'autre d'après, encore et encore moins. Donc, je trouve ça excessivement dangereux comme jeu de garder ce gars-là, à moins, encore une fois, d'être un aspirant.
Devin Achane, JP, je regarde le reste de ta liste. As-tu des choses à rajouter autour de ces noms-là? Devin Achane, Bucky Irving, Breece Hall, James Cook.
Devin Achane, c'est un peu le même principe que Barkley. Sans l'âge, moi, je pense qu'il ne va jamais valoir autant. Bucky Irving, il y a trop d'emballement par rapport à ce gars-là. Je pense qu'il ne va jamais valoir autant. Sinon, au pire, à la fin de la saison. Puis Breece Hall et James Cook, pour moi, c'est juste trade-les avant qu'il soit trop tard. Point final.
Puis certains de ces gars-là, mettons Breece Hall, qui est dans une situation un peu, tu sais, c'est pas le contexte l'idéal. Là, ça a l'air en plus que ça s'enligne pour être un comité à New York, etc. Est-ce que tu vois, tu sais, il n'est pas si vieux que ça, Breece Hall, je pense qu'il a 24 ans. Est-ce que tu verrais ce gars-là rebondir? Mettons, il se fait échanger dans une autre équipe, les Bears. Bon, on s'attend à ça, c'est un scénario vraiment idéal, mais est-ce que le fait qu'il ait seulement 24 ans peut rajouter un peu de valeur pour lui ou pas, t'sais.
Mais je pense que c'est pour ça qu'il sort 11e running back. Fait que, t'sais, j'ai pris ça en compte. Pour moi, ça vaut pas ça. Fait que oui, dans le 11e pick, c'est déjà inclus dans le prix qu'il y a une possibilité qu'il aille ailleurs dans un meilleur contexte. Mais moi, j'aimerais ça capitaliser tout de suite à cette valeur-là au lieu de le garder cette année qui déçoive et qu'il y ait une possibilité qui vale encore moins.
Ouais, que bon point. OK, très, très intéressant. Maintenant, au niveau des receveurs, 4 noms GP. J'en vois notamment un qui va peut-être surprendre bien des gens.
Oui, je vais y aller en décroissant. Je vais nommer celui qui va le moins surprendre, c'est Zay Flowers. Tout a été dit. On ne l'aime pas vraiment. On a vu son ceiling. Il sort 23e receveur de passe. Je trouve ça fascinant, pour être poli. Sinon, les trois autres, je pense que c'est surprenant, mais A.J. Brown, 28 ans, sort 12e receveur de passe. On a vu son ceiling à lui aussi. Il y a une petite régression au niveau fantasy, pas dans son jeu, mais une petite régression. Et c'est bien rare qu'on voit une progression à partir de l'année 28 d'un receveur de passe dans la NFL. Les deux autres noms qu'on va plus s'attarder parce qu'il y a un gros concept que je veux parler avec un des deux. Mais le premier, c'est Travis Hunter.
Ah ouais, c'est ça.
Ouais.
Il y en a qui auraient pu s'attendre à le voir dans la liste des recrues, des jeunes joueurs à targeter. Le nom, il est dans la liste de ceux à échanger, à offloader.
Écoute, je vais dire quelque chose, fait qu'on peut le clipper ça puis que j'en ai l'air vraiment fou. c'est un très bon receveur de passe. Ce n'est pas un receveur de passe élite. Et le hype de ce joueur-là est en partie construit avec le fait qu'il joue corner.
World threat, ouais.
Mais ça, ça n'a aucun impact sur notre fantasy. Tu comprends? Fait que c'est comme si Travis Hunter, exceptionnel, c'est un super bon receveur de passe. Et en plus, c'est le meilleur chef de cuisine aux États-Unis. Excellent, mais ça me donne
intéressant
quoi?
Intéressant quand même, un gars qui s'est bien développé, qui a développé plusieurs talents. Je trouve ça intéressant, je le veux dans mon équipe.
Non, mais ça n'a comme aucun lien avec sa production offensive. Même que, à la limite, moi, comment je perçois ça, c'est négatif qu'il soit bon défensivement parce que même si
ça va y enlever des snaps en offensive, possiblement, peut-être des opportunités.
Ouais, puis augmenter les risques de blessures. Et c'est impossible de préparer un joueur de football parfaitement pour les deux positions avec les deux plans de match à chaque game. C'est impossible. T'sais, à moins qu'on ait vraiment un génie en Travis Hunter, puis je nie pas que c'est une possibilité, puis tant mieux si c'est le cas, mais je trouve qu'il est vraiment à risque, puis il va jamais valoir autant que le 17e.
C'est vrai, 17e de passe. Quand même, ouais.
Fait que je voulais qu'on parle de ça parce que c'est un cas vraiment unique, puis moi, j'ai jamais vu de ma vie un Travis Hunter, pas dans le sens un gars qui est capable de jouer les deux positions. Je le répète, on l'a dit dans notre deuxième épisode ever, 80% des joueurs élites à une position dans NFL pourraient en jouer d'autres. Aaron Donald, le joueur de ligne défensive, aurait pu jouer O-line. Jamar Chase pourrait être corner en même temps. AJ Brown pourrait être linebacker, wide safety. Tu sais, on name it, c'est pas parce que les gars ne peuvent pas, c'est qu'ils l'ont pas essayé et ils n'ont pas eu un coach un peu marionnette qui voulait mousser une université en créant le plus de hype de l'histoire de l'humanité. C'est tout, c'est juste ça. C'est pas par manque de capacité.
Deion Sanders, s'il écoute notre épisode, là, JP, moi, je ferai attention à ta place. Il va t'attendre avec une brique puis un fanal.
Non, mais...
fair enough, OK.
Mais c'est réussi comme plan, puis je veux qu'on en parle vraiment souvent parce que le hype de ce gars-là ne vient même pas de ce qu'il va nous rapporter comme pooler. Fait qu'au final...
C'est un très, très, très bon point, effectivement. À moins que tu sois dans une ligue, là, tu sais, qu'il y a des joueurs défensifs aussi, comme les points qu'il va faire en dev vont compter.
On salue les deux personnes au Québec qui ont ça. Bon.
On les salue puis on leur dit bonne chance parce que sérieux, ouais.
C'est plate. L'autre gars, là, on va faire un cas avec lui parce que c'est un joueur qu'on aime beaucoup, mais c'est un cas type de quelque chose qui arrive à chaque année pour des dizaines de joueurs. Donc, l'autre joueur que je souhaite échanger de mon équipe, c'est Terry McLaurin, qui est un super beau receveur de passe avec une belle situation de corps arrière, beaucoup mieux que dans le passé. Quand même repêché 19e receveur de passe en dynastie. Et Terry a 30 ans. Et là, pour le podcast, j'ai été voir tous les très bons à élite receveurs de passe des 15 dernières années pour voir c'était quand leur déclin. Fait que on ne peut pas pinpoint exactement un âge précis à un mois précis de tous les receveurs de passe. C'est démagogique et ça ne sert à rien. Puis on arrivera avec une moyenne précise qui ne veut rien dire. Mais en général, ça se passe. Le déclin, là, je ne parle pas de un petit peu. Là, je parle, moi, qu'on passe d'un receveur de passe qui pourrait finir 22e fantasy à 55. Okay? Le déclin normal, c'est entre 29 et 32. Et je te dirais que ça fesse plus fort de 29 à 30 souvent. Donc, tu sais, Terry est dans ce range-là d'âge. C'est pas pour rien que Washington ne voulait pas le payer. Ils savent encore plus que moi que ce gars-là va être en déclin à partir de cette année ou au mieux après l'année prochaine. Donc, c'est pas pour rien qu'il voulait juste y donner 2 ans et non 3. C'était ça la grosse négociation de contrat, je les comprends. Puis moi, je l'aurais signé au montant qu'il voulait pour 2 ans, mais c'est vrai que c'est la 3e année qui fait mal. Fait qu'en ce moment, je trouve qu'il vaut vraiment cher encore. C'est étonnant. Moi, ça me shake, mais profitez-en. Puis il y a beaucoup de bons receveurs de passe qui sont un petit peu moins hypés à la Devante Smith en ce moment, qui seraient des gars plus intéressants à voir, étant donné qu'ils sont un petit peu plus jeunes. Puis ils sont dans un contexte pratiquement copié-collé. C'est juste qu'il y en a un qui est premier receveur de passe dans une moins bonne offensive, puis l'autre deuxième, et ainsi de suite. Mais en termes de points totaux, on est aux mêmes endroits, mais on gagne 3-4 années. Donc, c'était ça mon cas.
Puis le fait que McLaurin soit rentré dans la NFL à 24 ans, qu'il ait juste 6 saisons dans le corps, est-ce que ça, pour toi, ça joue pas vraiment? Il n'y a pas de...
Non, tu sais, oui, c'est un fait, surtout pour les running backs, le nombre de touches totaux qu'ils ont eu dans la NFL. Mais ce gars-là, s'il est rentré tard dans la NFL, ça l'indique qu'il est resté tard dans la NCAA. Donc, au lieu de jouer 16 matchs professionnels, il en a joué de 12 à 14 dans un semi-professionnel qui est NCAA parce que c'est un calibre débile et les contacts font tout aussi mal à ce niveau-là. Donc, non, pas vraiment. C'est une très bonne question, par contre, mais non.
OK. Ben, c'est ce qui fait le tour des joueurs à échanger absolument le plus vite pendant qu'ils ont encore de la valeur. Maintenant, on a une liste quand même assez, là, assez imposante de joueurs que vous devriez target dans vos ligues.
Puis, bien honnêtement, à part un ou deux gars, on va y aller vite parce que c'est tous des gars qu'on a déjà parlé. Je veux juste dire le nom et combien de sèmes qui sortent à leur position.
Ça se dit le consensus le rend consensuel là, à leur position. Donc, au niveau des corps en JP, quatre noms sur ta liste.
Ouais, et le rang, c'est bien sûr en dynastie. Donc, Bo Nix, 7e, let's go, 6 balles. Justin Herbert, 10e, c'est gratuit. Drake May, 11e, super. JJ McCarthy, 16e. Ça coûte rien à aller chercher.
J'aime ça. Au niveau des tight ends maintenant.
Oui, Tucker Kraft, 10e. C'est un beau gamble. Je ne dirais pas qu'il est à rabais nécessairement. C'est où il devrait être, mais je trouve que c'est un... Pour un club qui n'a pas de tight end, je trouve ça très intéressant en dynastie. Isaiah Likely, 14e. Ça, c'est un pari qui va signer ailleurs ou que Andrews va s'en aller après cette année à Baltimore. Moi, j'y crois bien honnêtement. Et si c'est le cas, ça pourrait être un des meilleurs gambles, toutes positions confondues en dynastie. Pour quelques années, il est déjà âgé, Likely, mais un bon 2 à 4 ans supplémentaires après cette année. Et l'autre, une petite surprise que j'ai ajoutée dernière minute parce qu'il nous fallait un vrai deep sleeper, c'est Jatavion Sanders, le tight end des Panthers de Caroline, qui est vraiment meilleur qu'on pense. Il y a une bonne année recrue, bien honnêtement. Mais c'est un vrai de vrai d'or. Fait qu'on n'a pas vu encore c'est qui Sanders. On va le voir cette année. Fait que ça se peut vraiment que ce gars-là est décevant et c'est rien d'exceptionnel. Ou on a un tight end startup fantasy à la Freiermuth. Fait que c'est un gars qui finirait entre 7 et 16e à chaque année. Il en faut des gars de même, malheureusement, en dynastie parce qu'on peut être mal pris longtemps.
Mmh. OK, j'aime ça. Puis en plus, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quand même très important, un très beau nom, un nom de joueur vedette, le Jatavion Sanders. Ça sonne, on aime ça. Porteur de ballon maintenant, quand même plusieurs noms ici sur ta liste, JP.
Encore lui, Chuba Hubbard, je pense dans chacun des épisodes. Je pense que même dans l'épisode des QB, on en parle.
C'est bon ça.
Écoute, fait que Chuba, il ne coûte rien, il sort 20e running back. L'autre, c'est le vol à la position, selon moi, Tony Pollard, 30. Deuxième running back, ça se peut pas. Puis je vais aller juste vérifier son âge, mais je pense qu'on est à 28 si je ne m'abuse.
Je pense que tu as raison, ouais.
Ouais, 28 ans. Fait que oui, il reste pas 5 ans devant lui, mais à ce prix-là, si vous êtes un club contender ou semi-contender, il va rien vous coûter en échange, bien honnêtement. Fait que moi, j'irais. Le prochain, Zach Charbonnet, parce que j'aime Kenneth Walker, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas éternel et Charbonnet peut faire une belle job. Fait que 34e. Trey Benson, 35e. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il va supplanter James Conner de cette année, mais dans un futur approché, pourrait être un lead back NFL. Javonte Williams, il est gratuit, fait 42e running back. Même principe pour J.K. Dobbins, le running back numéro 1 à Denver.
Jordan Mason, je pense que tu as skippé.
Ouais, Jordan Mason, que volontairement skippé. C'est pas vrai. Non, mais on s'emballe pour cette année, mais l'an prochain, c'est une autre histoire. S'il fait une belle job dans le comité à Minnesota, ça pourrait être vraiment un vol pour l'an prochain. Lui, ça se peut qu'il coûte vraiment cher parce que les gens qui ont la possession de cette tasse café-là, je pense qu'ils l'aiment vraiment beaucoup.
Ouais, bon point.
Puis le dernier, ça, c'est une autre surprise. C'est un gars que je pense que j'ai quasiment sauté de joie quand je l'ai eu dans notre Starter Dynasty il y a quelques semaines. C'est un gars, je vais teaser un petit peu, mais c'est peut-être le meilleur backup en ce moment dans la NFL. Je trouve qu'il a un talent de starter. Il pourrait starter à minimum 10. Chez minimum 10 équipes dans la NFL. C'est sa dernière année de contrat recrue. Donc, l'an prochain, il est libre comme l'air. Fait qu'il peut rester où il joue ou peut aller ailleurs. Et s'il va ailleurs, c'est un home run parce qu'on pourrait avoir un running back starter de qualité. Dépendamment de son contexte, ça pourrait être bien ou extraordinaire. Je parle de Tyler Allgeier, qui est le backup, bien sûr, à Atlanta derrière Bijan. J'aime vraiment ce gamble-là, pas parce que c'est sûr, ça a peut-être 10, 15, 20% de chance de frapper, mais si ça frappe, ça va vraiment payer.
J'aime ça. Puis ce que je trouve intéressant, JP, de ta liste ici, c'est de voir qu'il y a vraiment une. Tu t'accordes une valeur supplémentaire au backup en dynastie. Puis il y a vraiment l'importance, on voit ici ressortir l'importance de justement de suivre les différentes situations et les différents contextes. Parce que, ben, tu vois, genre Tyler Allgeier, demain matin, à part être l'handcuff de Bijan Robinson, c'est pas le gars qui va te faire gagner ton fantasy, mais si l'année prochaine, il signe avec Chicago, par exemple, puis il devient starter à Chicago, ça peut être extrêmement payant, puis tu l'as eu pour à peu près rien, fait que très, très intéressant.
Puis aussi, un petit truc pour lui, parce que je vous souhaite de réussir à échanger. Pour si le propriétaire de Bijan Robinson a Tyler Allgeier dans votre dynastie, oubliez ça, essayez pas, mais si c'est pas un propriétaire de Bijan qui a Allgeier, c'est sûr qu'il est prêt à l'échanger, à moins qu'il ait écouté le podcast.
Ouais, dépêchez-vous avant que l'épisode sorte. Maintenant, on passe aux receveurs de passe, JP. Quand même une bonne liste. Je te laisse aller.
Ouais, et je les aime beaucoup. Puis toi aussi, en fait.
Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs noms qui ouais, m'excitent là-dessus.
Le premier, c'est Marvin Harrison Jr. Il y a une forte possibilité que le pooler qui a Harrison Jr. l'a drafté premier overall l'an passé. Ça se peut qu'il soit déçu. Donc, moi, c'est comme une ligne que je lancerais à l'eau juste pour le fun, pour regarder c'est quoi la valeur pour le pooler. Fait que pour moi, c'est pas un must qu'il faut absolument tout donner pour aller chercher, mais juste, ça se peut-tu qu'il vaut moins qu'il vaut en réalité pour ce gars-là? Donc, après ça, j'ai Jameson Williams. On en a tellement parlé. Il sort 30e dynastie. Ça, c'est un vol total. Idem pour Jordan Addison, 31e. Fait que ces deux gars-là, c'est magique aller chercher ça. Chris Olave, 34e. Je déteste pas ça. Je voulais le mentionner parce qu'il est encore jeune et son contexte pourrait changer.
Ouais, il a juste 25 ans. On en parlait plus tôt. Seulement ouais. 25 ans, Chris Olave, quand même. Rentré dans la NFL à 22 ans.
Le prochain, c'est le fils adoptif de GF. C'est Ricky ouais, Purcell.
Ricky, oui.
Sort 38e. Lui, en ce moment, ça doit être... C'est pour ça que j'ai mis des gros astérix. Ça doit pas être facile. Aller chercher. Moi, je pense qu'il y a un hype réel et je te dirais concret aussi par rapport à ce joueur-là. Fait que bonne chance, mais essayez pour le fun. Le prochain, ça m'étonne moi-même, mais Josh Downs, le meilleur receveur de passe à Indianapolis pour l'instant, sort 44e, pareil. C'est tard pour un bon joueur de football, jeune encore, puis dans un contexte qui assurément va changer l'an prochain.
On espère pour lui qu'il va s'améliorer,
ouais,
comme lui souhaite.
Exactement, c'est possible que non. Ouais. Keon Coleman, ça c'est le d'or à la position selon moi. Là. 46e receveur de passe, une possibilité d'être un receveur de passe numéro 1 à Buffalo. T'sais, le champ est libre devant lui. Est-ce qu'il va prendre... l'occasion, puis faire quelque chose de magique avec ça, on ne sait pas, mais il ne vous coûte pas grand-chose. Je pense qu'en ce moment, bien honnêtement, GF, il coûte moins cher là que dans son rookie draft, dans notre rookie draft où il fallait le sélectionner l'an passé. Donc, c'est un gamble intéressant et c'est sûr qu'il va être meilleur cette année que l'an passé. Je serais prêt à gager beaucoup là-dessus. Le prochain, ça donne... En ADP, qui est 57e receveur de passe, mais je pense qu'il pourrait être 90 sur d'autres listes. C'est un joueur qui est totalement oublié. Et je vais t'avouer, GF, que quand je l'ai drafté dans notre dynastie, pas que c'était une erreur, mais comme je scrollais les receveurs de passe, j'ai comme « Hein? Il est là? » J'ai tellement pas porté attention, mais je ne pense pas que je suis seul. Mais Jalen McMillan, oui.
Mm-hmm. Et je t'avoue, moi, je l'ai vu. T'sais, il traînait sur le board, effectivement. J'ai eu peur pour sa blessure. Je pense que c'est ça qui arrive avec beaucoup de DG. C'est que ce qu'on a vu, les images, les ci, les ça, ça fait peur.
Mais tu sais, mettons là, qu'il y a 20% de chances qu'il ne joue plus jamais dans NFL, un 50% de chances qu'il ne joue pas de l'année. Il nous reste un 30% de chances que c'est un joueur NFL. Mark Evans n'est pas éternel. Godwin non plus.
Quoique, Mark Evans, je commence à penser que.
Puis. 57e receveur de passe, donc il doit être à peu près là, 160-180e joueur total repêché en dynastie. Fait que c'est un dart qui coûte sweet fuck all, qui vaut la peine selon moi, puis t'es rendu à la 12, 13, 14, 15e, 16e, 17e round. Vous n'allez pas starter ces gars-là anyway cette année, donc ça vaut vraiment la peine. Le prochain, je pense pas que son ADP est juste, mais c'est pareil ça en ce moment. C'est Xavier Leggett que j'aimais bien, même avant la blessure de Jalen Calker. Donc, beau gamble qui coûte vraiment, vraiment, mais vraiment rien en ce moment à Caroline.
Hey, excellent. C'est ce qui fait le tour, dans le fond, de nos musts pour votre dynastie. Donc, on vous a parlé de joueurs, de jeunes joueurs, de joueurs recrues à targeter, de joueurs à échanger, de joueurs, des vétérans à mettre, à essayer d'aller ajouter à votre alignement. Donc, vous êtes bien équipé pour dominer votre dynastie pour les prochaines années. Vous n'avez aucune excuse autrement. Merci, JP, pour ça. Super intéressant. Avant de se laisser, on a quand même deux questions très intéressantes. On commence ça avec la question de notre ami Mathieu, qui nous demande « Pourquoi vous ne parlez pas plus de Keepers? Vous n'aimez pas ça? »
Bon.
Ma gang de cons. Bon, là, on l'a enlevé, ouais, mais c'était ça que Mathieu avait rajouté. Bon. Ouais, franchement, oui. Mathieu...
Mais oui, on va te bloquer de notre Patreon. Ouais, et si vous voulez... Si vous voulez poser des questions sur Patreon, faites comme Mathieu, sans le petit con.
Ouais, c'est pas nécessaire les insultes, honnêtement. Là.
C'est une joke, il n'y a pas de ça. Mais ouais, fait pourquoi on parle pas plus de Keepers? Jeff, je parlais de l'analogie de Good Food. Je sais pas si vous connaissez, si vous n'avez commandé dans la pandémie.
Ben non, c'est ça. Je connais bien Good Food. Je connais aussi les 7 autres compagnies qui font compétition à Good Food. Là, je me fais harceler de publicité partout.
Exactement. Mais Good Food, pour ceux qui n'ont jamais commandé, et chapeau à vous. Donc, Good Food, vous voyez que c'est pas une commandite de l'épisode.
Il aurait aimé ça, mais ouais, ça marche pas.
Mais Good Food,
les valeurs sont pas alignées.
C'est une boîte repas, donc tout est déjà portionné, mais pas coupé. Fait que c'est les petites patates grelots, c'est vous qui faites la manœuvre et tout ça. Le saumon est mariné, mais vous l'enlevez du sous-vide, vous faites cuire le petit riz qui est dans le petit sac. Fait que niveau environnemental, c'est zéro, mais ouais. Là n'est pas l'analogie. Mais pourquoi je voulais parler de Good Food? Pour moi, c'est le pire des deux mondes. Donc, vous n'êtes pas au restaurant que vous vous faites servir qu'il y a un plat déjà tout fait pour vous, même que ça existe des compagnies de prêts à manger, que c'est prêt, ça arrive, tu mets dans le micro-ondes, mm-hmm. C'est fait. Et ce n'est pas un repas qui te construit de A à Z en allant à l'épicerie. Mais tu payes le prix comme si tu avais été au resto que tu t'avais fait livrer un repas prêt. Mais en même temps, tu as des manœuvres à faire, ce que je trouve discutable, mettons. Mais un Keepers, pour moi, c'est ça. Fait que c'est le pire des deux mondes. Fait que t'as, oui, tu as l'aspect annuel, tu as un repêchage à chaque année, ton équipe elle change. Puis oui, tu as un aspect émotionnel, un aspect... pas comment dire, j'ai juste le mot inclusion, mais comme t'es pris dans ton équipe d'une année à l'autre, tu te sens attaché.
Oui, tout à fait. Mais t'as un attachement émotif à cette équipe-là, à ces joueurs-là, etc., qui t'ont amené du succès. Dans bien des cas aussi, quand on parle de Keepers, c'est souvent des gars peut-être qui sont sortis un petit peu trop tard, qui t'ont amené une belle valeur, qui t'ont fait passer pour un génie au moins le temps d'une saison.
Puis le pays, il y a deux types de Keepers. T'as ceux qui... Tu vas garder des joueurs que tu veux, peu importe la ronde que tu les as repêchés, ça n'a aucun impact. Puis il y a un repêchage. Fait que, exemple, vous êtes 12, vous en gardez tout un, mais le repêchage commence sans 12 joueurs de la NFL, puis ainsi de suite. Ou tu as ceux qui sont un petit peu plus techniques, que si tu as repêché Brian Thomas en 7e ronde, puis si tu décides de le keeper, mais tu n'as pas ton 7e ronde, mais de ton 1er, 2e, 3e, 4e. Ça, c'est vraiment plus sympathique. Là, mais ça pour dire que. Je trouve que tu as le pire de l'annuel parce que oui, tu investis, tu changes ton équipe à chaque année, mais comme tu as le pire du dynastie, parce que qu'est-ce qui est le fun d'un dynastie, c'est de construire son équipe, la garder pendant des années, de transiger dans le off-season, que ce soit vraiment 12 mois par année, que de voir plusieurs coups à l'avance, plusieurs années à l'avance. Donc moi, je trouve que t'es moins impliqué qu'un dynastie, mais ça t'apporte pas tant de plus qu'un annuel. Puis moi, personnellement, c'est pour ça que c'est vraiment personnel, puis tu peux me contredire, JF. Moi, j'ai aucun intérêt là-dedans, mais zéro.
Moi, je l'ai déjà eu dans une ligue annuelle. On avait deux keepers, puis c'était vraiment la formule que tu parles, JP. Fait que tu t'as repêché tel joueur en 8e ronde l'année d'avant, il te coûte un choix de 8e ronde à garder. Fait qu'évidemment,
ça, c'est mieux.
Ça amène et ça peut t'amener énormément de valeur. Puis on a arrêté de faire ça. Je pense que chaque joueur que tu keepais valait minimum un choix de 5e ronde parce qu'il y a une année qu'il y a un gars, je pense, qui avait. Il avait ramassé justement Odell Beckham sur les waivers. Fait que ça a coûté un choix de 17e ronde garder Odell Beckham qui est top 5 à la position. Bref, c'est cool parce que ça peut récompenser quand même des bons DG. Le problème, nous, dans la ligue où ce que j'étais, qu'on l'a enlevé, c'était la parité. C'était. Tu sais, tu parles que ça t'amène les pires des deux mondes. Je suis assez d'accord parce que une dynastie qui n'est pas de parité, on s'en fout. À la limite, mettons que tu es dans les bas-fonds. Tu peux accumuler des choix au repêchage, tu peux penser à l'avenir, tu gères ton club pas juste sur une saison, alors que dans un annuel qui a des keepers, t'es comme, faut que tu penses un peu à long terme, mais en même temps, tu peux pas changer ton repêchage, tu peux pas aller chercher des actifs intangibles, fait que tu te ramasses, nous, ce qu'on avait vu, puis je pense que c'est ça le problème des keepers, c'est que ça peut vraiment venir distorsionner un peu le calibre dans une ligue, puis honnêtement, je pense que la réalité aussi, c'est que tant qu'à jouer un peu entre les deux, tu y vas all-in soit dans un format, soit dans l'autre. C'est ça que la plupart des gens réalisent, c'est que c'est plus le fun de faire un dynastie que juste avoir quelques petits keepers dans un pool annuel, puis tu viens, tu sais, c'est pas nécessairement des formats qui vont bien ensemble. Fait que je pense que c'est peut-être ça. Mais cela dit, pour revenir à la question de Mathieu, moi, je suis pas opposé down the line à ce qu'on parle, à ce qu'on réponde à des questions. S'il y a des gars qui ont des choix à faire avec leurs keepers, hey, envoie-nous ça. N'hésite pas, Mathieu. N'hésite pas à nous en faire part. Puis on s'entend, quand on parle de dynastie, il y a certaines choses dont on parle qui peuvent s'appliquer aussi à vos keepers. C'est des joueurs qui ont moins de valeur cette année, mais qui en ont plus à l'année d'avenir, etc. Fait que je pense qu'on va peut-être y toucher plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison. Mais si vous avez des questions spécifiques à ça, je pense pas qu'on est fermé à y répondre.
Non, puis inquiétez-vous pas. Si on avait une question sur quels joueurs, à quelle ronde vous repêcheriez dans le but de peut-être le keeper, on va se creuser la tête puis on va bien répondre à la question. C'est pas ça le but, c'est juste en termes de préférence personnelle, si on a à avoir un pool supplémentaire, JF puis moi, je pense pas que ça va être les keepers.
J'en doute fortement. Une autre question, une bonne celle-là quand même, de la part de Guillaume, qui nous demande, avec les changements au niveau des corps arrière qu'on prévoit en 2026, considérant que la QV 2026 est bonne à cette position, ça je pense qu'il y a des avis qui divergent là-dessus quand même, Guillaume, quels sont les receveurs de passe et même les tight ends qui vaudraient la peine d'aller chercher dans l'optique que leur contexte soit meilleur avec un nouveau corps arrière qui serait meilleur? Donc, on parle de clubs de bas de classement qui pourraient repêcher l'année prochaine un corps arrière qui viendrait augmenter la valeur de certains joueurs offensifs déjà dans l'équipe en question.
C'est tellement une bonne question. C'est tellement une bonne question chargée. Mais on pourrait passer, je pense, un épisode à en parler. Mais je dirais à Guillaume, si tu m'avais posé exactement cette question-là en 2024, donc on est au mois d'août, septembre 2024.
Un an jour pour jour, ouais, l'année passée.
J'aurais répondu les Browns de Cleveland, les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Seahawks de Seattle, les Giants de New York, les Colts d'Indianapolis, les Steelers de Pittsburgh et les Jets de New York. Et toutes ces équipes en ce moment n'ont pas nécessairement un meilleur contexte. Puis oui, c'est pas le repêchage 2026 qui vient d'être fait, c'est 2025, mais la QV de... C'est pas... on n'a pas 5 Joe Burrow en 2026 qui vont sortir au repêchage. Donc, c'est une bonne question. Félicitations de penser à l'avance. C'est un beau tremplin sur qu'est-ce qu'on parlait il y a quelques minutes. Mais faut pas non plus galvauder. Puis oui, c'est intéressant de prendre des gambles sur un Chris Olave qui pourrait possiblement l'an prochain avoir un meilleur corps arrière en Nouvelle-Orléans. Mais de un, aucune certitude que les Saints draftent un bon corps arrière. Et de deux, 99% des corps arrière recrues lancent très peu de verges et très peu de touchdowns par rapport aux autres années dans leur carrière. Donc, on prend un gamble sur un Chris Olave pour dans 2 ans. Donc, je trouve ça un peu riche et un peu lourd à payer pour quelque chose de peut-être dans 2 ans.
Puis on s'entend, Guillaume, tu as vu la liste de GP des joueurs recrues à Target, des joueurs vétérans à Target. Donc, tu as une idée un peu des joueurs que GP aime pour le futur. Mais essayez, puis tu sais, JP, je trouve qu'avec cet exemple-là, c'est le meilleur exemple que tu fais donner. Il n'y a aucun des clubs que tu as nommés qui s'est réellement amélioré à la position de carrière. T'sais, peut-être les Browns, si jamais Shedeur Sanders se développe d'un malade dans 3 ans, je ne sais pas. Là.
Mais même là.
Tu sais, Jackson Dart à New York, mais pour cette année, aucun impact. Ce n'est pas des gars qui vont starter, puis c'est très, 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 très dur à prédire. Puis comment, tu sais, ultimement, de tous les clubs ici que JP a identifiés, il y a un an, je suis sûr que la majorité des gars se serait dit « Écoute, ces clubs-là vont finir dans les bas-fonds, c'est sûr qu'ils pêchent un corps arrière. » Finalement, il y a qui? Il y a Cleveland, il y a les Saints, Seattle qui ont pêché Jalen Milroe, mais qui est un projet à très, très, très long terme. Les Giants avec Jackson. De cette liste-là, des clubs que tu as nommés là, s'il y a un seul club qui a pêché un corps arrière en première ronde, et c'est Jackson Dart avec les Giants en fin de première ronde. Fait que, en tout cas, on très dur à... Puis, dernier truc, JP, on a eu un bon débat avant l'épisode. C'est le fait, je pense, que de ton côté, de ton point de vue, un gars comme Olave, ce qu'il nous a montré depuis le début de sa carrière, il ne va pas doubler sa production tout d'un coup, même s'il y a un meilleur carrière qui va y lancer. Là.
Non, puis aussi, tu sais, demain matin, Stafford décide de quitter les Rams et s'en va en Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'Olave va avoir une meilleure production qu'il aurait cette année avec Tyler Shock? Possiblement, mais on parle de 10, 15, 20 %. Fait que, tu sais, c'est tout ça pour des miettes en tant que telles sont importantes, ces miettes-là, on s'entend, mais pour prendre un gamble comme ça ou pour surpayer si finalement le move se fait de Stafford en Nouvelle-Orléans, je trouve que ça ne vaut pas tant le gamble. Puis Guillaume, pour une dizaine de gars que tu irais chercher avec cette théorie-là, qui n'est pas mauvaise, il y en a peut-être deux ou trois qui auraient vraiment un meilleur contexte et qui auraient valu la peine. Donc, il faut vraiment que tu frappes beaucoup de balles pour avoir une coupe de home run là-dessus. Fait que je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. Je mettrais plus d'énergie, bien honnêtement, sur des jeunes Top Gun, comme on a parlé, les rookies. Vraiment.
Ouais, tu as fait un conseil qui va un peu dans ce sens-là, JP, avec Tyler Allgeier. La différence, c'est que Tyler Allgeier, c'est lui qui est en... Tu sais, son contrat finit à la fin de cette année, puis il est en contrôle de sa destinée. Donc, Tyler Allgeier a le potentiel de signer dans une équipe qui va lui donner, tu sais, un meilleur contexte. Alors que les joueurs que Guillaume essaierait de target, faut que toutes les astres s'alignent, que l'équipe repêche le bon corps arrière. Puis il y a beaucoup de choses. Alors qu'un gars comme Allgeier, on s'entend, là en ce moment, son contexte n'est pas top, c'est un backup, mais son contrat finit à la fin de l'année, il signe avec les Bears, exemple. Ben écoute, tu viens de frapper un coup de circuit exceptionnel. Là.
Puis deux choses que je voulais mentionner. Première chose, je regarde vite les équipes qu'on a mentionnées tantôt. Plus de la moitié de ces équipes-là, c'est dans les pays organisations de la NFL. Fait que c'est pas. Anodin soit dans les bas-fonds et qu'il reste dans les bas-fonds. Fait que tu sais, il y a beaucoup de wishful thinking, pas dans Guillaume, mais je parle dans le fait que toute situation de la NFL va s'améliorer. C'est pas tout le monde qui va de l'avant en même temps. Fait que c'est la première chose que je voulais dire. Et l'autre chose, la QV 2026, premièrement, Archie Manning, qui n'est pas Peyton Manning, bien important de le mentionner, dans la même famille, mais c'est pas, ce n'est pas le même joueur, ni même Eli, risque de se déclarer au repêchage en 2027. Et les carrières qu'on s'excite en ce moment pour le repêchage de 2026, c'est Garrett Nussmeier qui joue à LSU, la Norris Sellers qui joue à South Carolina.
J'aime ce nom-là.
Et l'autre gros nom, c'est Cade Klubnik à Clemson. Et je vous dirais que ces trois-là, écoute, comment je pourrais dire ça? Je pense que la faiblesse des QV de corps arrière des dernières années fait en sorte qu'on surévalue cette QV-là. C'est une belle QV. C'est une QV qu'on... Tu sais, un peu comme la QV de l'an passé. Fait que oui, il pourrait y avoir des belles surprises par-ci, par-là, mais je vois pas de... Vite, je vois pas de...
Il n'y a pas de joueur dominant à la position, là.
J.J. McCarthy, s'il avait été drafté par les Giants de New York, est-ce que la valeur de Malik Nabers serait tout the roof en ce moment? Je ne suis pas sûr nécessairement. Moi, je pense que non, bien honnêtement. Et tu sais, la Norris Sellers, c'est un Cam Newton avec moins de talent. Désolé de le dire comme ça. Nussmeier, c'est bien, mais c'est pas Peyton Manning. C'est un classique carrière qui lance. Puis Klubnik, moi, il m'a vraiment déçu. Je vois rien de magique.
Pas Stellar, juste avec le nom, moi, je sais
on
déjà.
Est, ouais, vraiment, ça fait...
Ça marche pas. Non.
Ça fait vraiment Brandon Whedon, mais...
Puis, en pire, honnêtement.
Puis Blaine Gabbert, puis il y en avait un autre. En tout cas, il y avait une troll QB à Minnesota, Tennessee pendant des années. Jake Locker, c'était lui, je pensais. Mais tout ça pour dire que là, on est vraiment loin, fait que c'est facile d'être optimiste. On s'en parlera au mois d'avril quand on va évaluer les carrières au repêchage, puis voir qui se déclare aussi pour le repêchage. Mais,
bon point,
oui. Puis il y a Drew Aller aussi de Penn State que j'ai oublié, mais... Il y en a beaucoup, mais ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup qui sont toutes bons. Tu sais, on parlait de la QV running back et wide receiver, qu'il y avait beaucoup de profondeur cette année en 2025. Mais est-ce que tant de wide elite, par exemple, moi je trouve qu'il n'y en a même aucun dans le repêchage 2025. Fait que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que c'est une bonne QV. Fait que souvent on mélange, même principe, si on parle de hockey, c'est le même principe. Parce que Connor McDavid sort telle année, ah, c'est une belle QV. Ouais, mais c'est une belle QV pour une équipe, la première qui repêche premier. Ça veut rien dire pour les 150 autres picks au repêchage après, tu comprends. Mais là, fait que des fois, on galvaude un peu une position parce qu'il y a un joueur élite à cette position-là. Puis après ça, on sous-estime une QV qui a beaucoup de profondeur à cette position-là. Fait que c'était juste ça que je voulais ajouter.
Hey, merci Guillaume pour cette question-là, super intéressante, t'as vu? On en a parlé pendant quoi? Quasiment 10 minutes. Fait que lâche pas ça, Guillaume, ramène-nous-en des questions challenging comme ça, on adore. Fait que JP, c'est ce qui clôt notre épisode spécial Dynastie. On espère que vous avez apprécié ça. Évidemment, si vous voulez voir plus de contenu autour de Dynastie, autour de d'autres formats fantasy, laissez-nous le savoir, ça va nous faire plaisir de le considérer puis d'ajouter d'autres cordes à notre arc. Fait que JP, merci pour tes savantes analyses, puis on se dit à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.